L'avenir s'imagine avec l'ONICEP. Se repérer dans les cursus éducatifs et de formation relève parfois d'un parcours labyrinthique. Pléthore d'offres pour lesquelles il est judicieux de se renseigner, s'informer avant même les prises de contact avec les établissements. L'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, guide les jeunes et leurs familles dans leur choix de parcours de formation et de projets professionnels. L'ONICEP fournit des ressources pour les enseignants, les documentalistes, qui aident les jeunes dans leur démarche d'orientation. Sur FM+, avec nous, Sophie Salvadori, rédactrice en chef de l'ONICEP Plus Occitanie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors nous avons aujourd'hui décidé de nous intéresser à un type de vos publications, les guides régionaux. Les guides régionaux après la troisième et le second, entrer dans le supérieur. Commençons par la troisième, d'une façon chronologique, ça me semble cohérent, n'est-ce pas Sophie Salvadori ?
Tout à fait, de façon chronologique, c'est tout à fait cohérent.
Alors, l'année de la troisième est une année essentielle, nous déclare Michel Quéré, le directeur de l'ONICEP, dans son éditorial. Pourquoi est-ce donc une année essentielle pour vous, Sophie Salvadori ?
Vous avez raison, et notre directeur a aussi tout à fait raison. En effet, l'année de troisième est pour ces jeunes collégiennes et collégiens un moment assez déterminant dans leur poursuite d'études. Ils ont le choix maintenant, à la fin de leur classe de troisième, entre partir en CAP, certificat d'aptitude professionnelle, pour une durée de 2 ans. Ils ont aussi le choix de partir en baccalauréat professionnel pour une durée de 3 ans. Et enfin, ils ont aussi le choix de partir en seconde générale et ou technologique dans un lycée pour les amener à la poursuite d'études supérieures.
Oui, finalement, de l'école maternelle jusqu'à la troisième, c'est un long chemin ou un chemin tout court qui non interrompu. On ne peut pas s'arrêter avant la troisième, finalement.
On peut s'arrêter avant la troisième, mais c'est vrai que les parcours, les principaux paliers d'orientation se situent poste 3 et poste terminal.
Alors, quels sont, vous les avez donnés peut-être un peu rapidement, mais quelles sont ces formations possibles après la troisième ? Je vous invite peut-être à ce que nous les décrivions ensemble.
Elles sont listées, vous l'avez précisé tout à l'heure, dans le guide après la troisième, donc qui est diffusé gratuitement à chaque élève de troisième de l'Académie de Montpellier. C'est dans toutes les délégations régionales ONICEP, c'est le même système. Chaque élève de troisième reçoit un guide après la troisième de son académie. Et donc là, on va lister l'offre de formation poste 3 dans l'académie. Donc vous avez effectivement le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui se fait en 2 ans, qui permet de préparer un métier. Vous avez le baccalauréat professionnel, qui se fait en 3 ans, qui est logiquement conçu pour trouver un métier, mais aussi, de plus en plus, les jeunes titulaires de bac professionnel s'orientent vers des BTS et ensuite continuent leurs études. On a des beaux exemples de réussite dans ce cursus-là. Et enfin, vous avez le baccalauréat général et technologique.
Alors, dans les filières professionnelles, notamment le CAP, comment est-ce que ça se répartit dans ces professions ? J'ai vu qu'il y avait la production industrielle, hygiène, alimentation et services. Enfin, c'est vraiment regroupé dans différentes catégories.
Oui, vous avez aussi l'enseignement agricole qui propose des CAP, par exemple conchyliculture, un CAP maréchal ferrant, par exemple. Vous avez même un CAP maritime, CAP matelot. Donc effectivement, ces CAP dans le guide après la troisième sont regroupés par secteur d'activité. Voilà, vous avez effectivement l'industrie, l'hygiène et la sécurité, les bâtiments et les travaux publics, etc.
Et espace rural et environnement ?
Aussi,
voilà. OK. Alors, pour chacun de ces bâtiments, vous donnez les coordonnées de l'établissement, l'accessibilité aux handicapés, l'internat et ce que vous appelez le taux de pression. C'est intéressant comme formule.
Oui, effectivement.
Le taux de pression.
Le taux de pression, c'est en fait ce qui va pouvoir aider aussi l'élève à faire un choix sur tel ou tel CAP. Si par exemple, vous avez un CAP, notamment dans les grandes villes qui sont très demandées, où vous avez plus de 10 candidats, par exemple, pour une place, alors que dans d'autres villes, il y a par exemple 1 ou 2 candidats pour une place. Effectivement, plus le taux de pression est élevé et moins le candidat, s'il a un dossier moyen, a de chances de pouvoir être accepté dans ce CAP-là.
Donc là, ces entrées dans ces filières-là se font justement par dossier, ce n'est pas des concours, c'est juste une lecture du dossier de fin de troisième.
Tout à fait, à la fin de la, troisième, l'élève fait des vœux et il est accepté ou pas dans le CAP de son choix.
Alors, on a vu que c'était une répartition régionale, ces guides régionaux. Alors, j'étais étonnée de voir, en effet, vous l'avez cité, le CAP de Maréchal Ferrand. Comment est-ce qu'on peut... Alors, donc ça, c'est vraiment un métier qui va s'adresser dans les filières liées au cheval. Uniquement
oui,
ça.
C'est un CAP, ce qu'on appelle un CAPA, un CAP agricole.
Agricole.
Oui. C'est le ministère de l'Agriculture. Et les élèves qui se destinent à devenir maréchaux ferrants...
Il n'y en a pas beaucoup.
il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, il y a quand même deux CAP dans l'académie qui remplissent bien les classes. Et puis, c'est pour des jeunes qui se destinent à ce métier-là et qui sont passionnés par l'univers hippique. Alors, soit parce qu'ils vivent dans ce milieu-là, soit parce qu'ils sont emballés par
les chevaux. C'est vrai que nous sommes pas loin de la Camargue. Et peut-être les élevages de chevaux ont-ils besoin de maréchal Ferrand ?
Ah mais tout à fait, c'est un métier qui... De toute façon, c'est une génération là, qui va très nombreuse, qui va partir à la retraite. Donc ces métiers-là, surtout ces métiers-là...
Traditionnels.
Ont besoin de nouvelles main-d'œuvre, enfin de nouveaux diplômés.
Alors, vous donnez aussi pour l'enseignement général... et technologique, les coordonnées des lycées publics et les lycées privés, mais seulement ceux qui sont sous contrat.
Oui,
pour les lycées privés.
Oui, c'est le choix éditorial de l'UNICEF ne figure dans ce guide-là, en effet, que les lycées publics et les lycées privés sous contrat de l'éducation nationale.
Les sections sportives et linguistiques, elles, sont des catégories complètement à part ?
Elles sont en effet listées dans le guide à partir des pages 63, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était des éléments qu'on recherchait vraiment dans le guide-là. Donc, on les a mises... elles sont à part. Elles sont dans les listings des lycées, mais on leur a consacré aussi une page entière.
Donc, en effet, Sophie Salvadori, je comprends bien que les sections sportives et linguistiques sont vraiment... catégorisés à part. J'aimerais revenir dans la répartition des CAP par secteur professionnel. Je trouve votre présentation assez fascinante avec ces cercles qui vont déterminer les professions, par exemple dans le secteur de l'habitat, si vous voulez bien qu'on s'y arrête un petit peu. Là, il y a vraiment tous les types de CAP et ils sont excessivement... Enfin, ils sont énormes. Donc évidemment, on ne peut pas faire tous ces CAP dans un même lieu.
En effet, vous avez raison. On a insisté dans ce guide-là, après la troisième d'Académie de Montpellier, page 30 et 31, sur... on a fait des espèces de ronds concentriques avec au centre des grandes thématiques, ensuite des diplômes et ensuite un métier derrière. Et ça aide l'élève si, par exemple, l'élève se dit... qui veut devenir agent de maintenance des bâtiments, ben on lui propose, dans sa formation, il va apprendre à mettre en service des installations. Et le grand secteur de son CAP, ça va être les équipements techniques.
C'est ça. Donc, il peut voir aussi dans son environnement quels sont les métiers qui lui sont proches. Et on sait très bien que c'est les jeunes de 3e, ils ont du mal à concrétiser finalement à quoi ça correspond. Tous ces métiers-là, excepté électricien et encore.
Et encore,
une représentation de l'électricien qui n'est pas du tout...
D'autant que maintenant, on ajoute de plus en plus de l'électronique à l'électricité. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin de toute façon, quel que soit le métier qu'ils envisagent ou quelle que soit la formation qu'ils envisagent, beaucoup d'entre eux ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là qu'intervient vraiment le rôle du psychologue de l'éducation nationale dans l'aide au choix et l'aide à la prise de décision pour l'orientation.
Alors, ce psychologue, il dépend de l'ONICEP ou il est complètement à part ou...
On est de la même maison. On dépend tous du ministère de l'Éducation nationale pour ce qui concerne les psychologues de l'Éducation nationale. Et chaque établissement a un ou plusieurs PsyEN rattachés à son établissement. Ces PsyEN sont également dans les centres d'information et d'orientation, où là, le jeune et l'adulte peuvent trouver une information en les appelant, en prenant rendez-vous.
Mmh. Alors, j'aimerais peut-être qu'on s'arrête aussi un instant sur une autre roue comme ça que vous avez installée, dessinée dans votre journal. C'est l'espace rural et l'environnement. J'imagine que là, il va y avoir des métiers, des formations de CAP qui vont être propres à notre région Occitanie.
Oui, c'est vrai que, par exemple, typiquement, le CAP Maréchal-Ferrand, on est, vous l'avez dit tout à l'heure, une région agricole. On est aussi une région équestre avec les chevaux camargués, etc. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un CAP. On a malgré tout deux formations, mais c'est vrai qu'il y a des académies où ça n'existe pas.
Voilà, c'est ça. Et je pensais aussi au CAP Maritime-Matelot.
Oui, donc, c'est effectivement, on est une région côtière, donc avec des CAP, avec un lycée de la mer, même ici en Occitanie. Mais si vous avez des régions où il n'y a pas de mer, donc il y a un peu moins de formation liée à la mer.
Mmh. Alors, on en est là à l'enseignement professionnel qui mène assez rapidement à une profession. Je me souviens que les CAP avaient une forte représentation d'un diplôme sous-valorisant. Pour l'enfant, est-ce que c'est toujours le cas de ces formations d'apprentis ?
C'est malheureusement encore un peu le cas pour certaines familles qui considèrent que aller en CAP c'est une voie d'échec. Mais nous on leur dit qu'au contraire, faire un CAP dans une discipline qu'on aime, on est souvent bien meilleur que si on s'engageait dans une voie générale où là forcément où on n'excellerait pas forcément. Et ensuite, après, une poursuite d'études est tout à fait permise avec des passerelles, un baccalauréat professionnel, et puis après, pourquoi pas, en BTS.
Enfin, voilà, tout est possible aujourd'hui.
Mais oui.
Les filières se rejoignent.
Et oui, tout à fait. Il y a des passerelles vraiment qui permettent de bouger d'un diplôme à l'autre. Et il ne faut surtout pas considérer que le CAP est une voie de garage. Au contraire, il y a vraiment des jeunes titulaires de CAP qui gagnent très, très bien leur vie, croyez-moi.
Merci Sophie Salvadori, je vous propose de faire une pause musicale avec un remix de Lee Scratch Perry de son album Super App qui date de 1976.
War in a Babylon, tribal war in a Babylon.
Auditeurs et auditrices de FM+, nous étions avec Lee Scratch Perry qui a remixé son album Super App. Et avec nous, Sophie Salvadori, rédactrice en chef d'Onicep plus Occitanie. Nous évoquons ensemble toute la pertinence pour les jeunes en recherche de formation, en recherche de métier, de se rapprocher de l'Onicep, de regarder, de consulter tous ces guides, notamment deux dont nous parlons aujourd'hui, après la troisième et entrée dans le SUP. Après le bac, ce sont vraiment des outils qui sont à disposition des jeunes, Sophie Salvadori.
Ah oui, tout à fait. Ces guides-là, après la troisième ou entrée dans le SUP après le bac, sont diffusés gratuitement à chaque élève de troisième et de terminale et remis à jour chaque année. Et non seulement remis à jour chaque année et distribué gratuitement à tous les élèves, mais ensuite, on a aussi une mise à jour du guide qui se fait généralement au mois de mars. La mise à jour de ce guide-là dont vous parlez, entrée dans le SUP, aura notamment la nouvelle formation STAPS qui va se faire à l'Université de Nîmes. Et à l'heure où nous avons imprimé le magazine, on n'avait pas encore l'information que Nîmes allait ouvrir une filière, filière STAPS. Oh là là. D'où l'intérêt majeur de ces mises à jour. Troisième et bac ouais. qui vont avoir lieu au mois de mars.
Donc ces mises à jour se font format papier ou format numérique ?
Non, ce sera exclusivement sur format numérique.
Oui, on peut le concevoir.
Et en fait, donc les usages sont divers de ces mises à jour. Soit chacun prend son guide papier et note, soit on télécharge la mise à jour et ou le guide mis à jour.
Alors, en première partie d'émission, nous avons évoqué les filières de formation professionnelle, les CAP et les bacs pro. Dans ce deuxième guide que nous abordons, entrer dans le SUP après le bac, c'est, comme le titre l'indique, cinq filières d'études qui se déroulent après le bac. Les licences, les DUT, les BTS, les écoles spécialisées et les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, comment est-ce que le futur bachelier choisit-il une de ces filières ? Je veux dire techniquement, pas psychologiquement, mais là, techniquement d'abord.
Alors, techniquement, ça ne vous aura pas échappé qu'on a changé le système d'admission dans le supérieur. Jusqu'à présent, les élèves s'inscrivaient sur une plateforme qui s'appelait APB, Admission Post-Bac. Depuis le changement de président de la République, on a une nouvelle politique. Cette plateforme-là n'existe plus. Elle va être remplacée par une plateforme qui va s'appeler Parcoursup. Et pas que. Il y a aussi d'autres changements dans l'orientation. Il n'y a pas que le titre qui change, sinon ça aurait servi à rien. Je suis d'accord avec vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. On a tout indiqué sur le site de l'ONICEP, sur le site orientation-lycéen.fr. Les jeunes de terminale et les parents et les équipes éducatives ont des infos là-dessus pour leur montrer les changements. Et notamment, le choix pour l'élève de faire 10 vœux maximum.
Alors qu'auparavant, c'était
24.
24 vœux, oui, c'était énorme.
Ouais. Oui, donc là, d'où l'avantage aussi, ce que vous disiez en préambule, d'être accompagné et d'être renseigné. Et c'est là aussi qu'interviennent les salons de l'enseignement supérieur, qui ont lieu en janvier, mais on en parlera d'une autre émission.
Bon, on en parlera le mois prochain. Alors, peut-être on pourrait commencer par les BTS. Finalement, les BTS, j'étais étonnée de ne voir qu'il n'y avait que 4 types de BTS. Mais alors, peut-être est-ce propre à la région Occitanie Pyrénées, BTS agricole, BTS maritime, production et services. Ou est-ce que c'est vraiment une nomenclature nationale ?
C'est une nomenclature nationale, mais effectivement, vous avez vu qu'à l'intérieur de ces chaque grand secteur, il y a quand même une quantité non négligeable de BTS.
Oui, c'est assez important, en effet. Il y a vraiment choix. Alors là, pour rentrer dans un BTS, il y a forcément une admission, ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui post-bac, qui s'appellera autrement...
Parcoursup.
Parcoursup. Et c'est vraiment ce Parcoursup qui va déterminer dans quel BTS l'enfant, le jeune, va aller.
Non, c'est à la base, c'est le choix de l'élève.
Bien sûr, mais après le choix.
Mais ensuite, ça va être... C'est toujours pareil, c'est sur dossier, et ensuite, c'est l'établissement qui contactera l'élève. Il y a aussi un choix assez important du conseil de classe qui va émettre un avis sur... les vœux qu'aura fait l'élève.
D'accord. Donc c'est quand même soumis beaucoup au dossier, évidemment, d'études.
Oui, et aussi au dossier au bulletin de notes de première, souvent. Donc il faut quand même que la scolarité soit assez... enfin voilà, tout ce qui concerne la discipline et tout ça, on demande aussi quand même... Voilà, sur le dossier scolaire, c'est indiqué. Et effectivement, si on a un dossier scolaire avec un manque cruel de discipline, voilà, ça limite les chances d'être accepté.
Quelle différence y a-t-il entre les BTS et les DUT ?
Alors, le DUT, le diplôme universitaire de technologie, se prépare à l'université en 2 ans, tout comme le BTS. Le BTS donc, se prépare en 2 ans en lycée. L'un comme l'autre peuvent se faire par apprentissage,
en alternant
à la fois cours théoriques à l'université ou au lycée et période en entreprise. Le DUT se fait sous forme des partiels, vous avez des partiels, et vous avez, donc il se fait en 4 semestres. Et le BTS, c'est un examen, des contrôles en cours de formation, et vous avez aussi l'examen final pour vous délivrer le BTS. Mmh. À l'IUT, donc c'est l'université, il y a plus de monde dans les classes, il y a des cours en amphi. Au BTS, vous êtes au lycée encore, hein, donc c'est système de classe comme au lycée, 30-40 élèves.
Parce qu'en lisant votre guide, on avait l'impression qu'une formation... je ne sais pas, maritime, aurait très bien pu être ou en BTS ou en DUT. Enfin, on se dit que... Enfin, moi, je me suis demandé, tiens, pourquoi cette discipline-là se retrouve plutôt en DUT, pourquoi pas en BTS ?
Ça, après, c'est les universités et ou les lycées qui décident d'ouvrir en fonction des politiques des telle ou telle section.
Mais au final, une personne qui a un DUT est plus, je ne sais pas, dans une grille de salaire, plus... Mieux payé ou...
Les deux sont des bac plus 2. Donc c'est à l'élève à défendre son bout de gras. C'est comme lorsqu'il va trouver un métier.
Il y a une hiérarchie, hiérarchie a priori de ces formations entre BTS et DUT.
L'un comme l'autre ouvre aussi à la poursuite d'études. Le DUT, vous pouvez très bien faire une licence professionnelle, tout comme le BTS.
D'accord. J'ai aussi pu constater que vous faites un tableau avec des correspondances entre les spécialités de bac pro, de BTS, de BTS agricole, de BTS maritime. On a le sentiment que cette organisation en maillage permet de, de penser qu'on ne choisit pas une formation dès le départ et qu'on peut changer ensuite. Enfin, il y a des passerelles, voilà, il y a des passerelles entre ces formations.
Oui, tout comme après la troisième, entre un CAP et un baccalauréat professionnel. Effectivement, après un baccalauréat professionnel, on peut faire un BTS agricole, un BTS ou un BTS maritime, et dans des domaines parfois voisins. Et donc, c'est pour ça qu'à l'ONICEP Occitanie, la collègue a réalisé ce tableau avec les correspondances entre les BTS, les baccalauréats professionnels et les BTS. Parce que, par exemple, typiquement, si vous venez d'un BTS, d'un baccalauréat professionnel métier de l'électricité, ça va être compliqué pour vous de rentrer, en bio-industrie transformation. Voilà. Mais oui, voilà, il y a certaines correspondances quand même qui sont logiques.
C'est ça. Ouais, on ne peut pas faire des grands écarts non plus tout le temps.
Bah, c'est qu'après, vous risquez de ne pas être accepté en BTS.
Oui, c'est ça. La spécialisation est trop forte.
Oui. Et c'est vrai qu'on invite aussi les bacheliers professionnels, après leur bac, à se renseigner, enfin, à vraiment lire ces pages-là qui leur sont consacrées, leur dire que vraiment la poursuite d'études en BTS leur est très conseillée, qu'ils réussissent beaucoup dans ces filières-là. Et même l'ONICEP, on a réalisé un kit pédagogique spécialement dédié aux bacheliers professionnels pour les aider à trouver vraiment la bonne voie après leur baccalauréat professionnel. Et on a mis cette grille-là, ce tableau-là de correspondance.
Alors, on a parlé de la nouveauté de l'admission en études supérieures avec ce Parcoursup. Y a-t-il des nouveautés, d'autres nouveautés qui sont aussi... importante ou flagrante dans cette nouvelle édition 2018
de ce guide. Le Parcoursup, c'est déjà beaucoup. Hein.
C'est déjà beaucoup, oui, c'est déjà beaucoup. C'est cette approche... nouvelles filières, est-ce que, par exemple, vous avez pu constater de nouvelles filières?
Non, c'est ce que je vous disais en préambule, là, le STAPS, la filière STAPS qui ouvre à Nîmes et qui, malheureusement, ne figure pas dans le guide, puisqu'on l'a imprimé, on ne le savait pas. L'information ne nous avait pas été donnée.
C'est quand même un outil de consultation absolument indispensable. Voyez-vous des informations que nous aurions omises, Sophie Salvadori?
Nous conseillons vraiment à l'élève qui ne sait pas que choisir l'an prochain d'aller à la fois effectivement sur les salons de l'enseignement supérieur, mais aussi de se rendre... aux journées portes ouvertes des établissements, que ce soit après la troisième ou après le bac, elles sont toutes listées dans les guides. Également, nous conseillons aux élèves en situation de handicap de lire ces guides-là. Des informations leur sont réservées. Le jeune aussi qui veut aller en internat, il a aussi le sigle internat sur les diplômes des lycées, notamment des BTS. Enfin, bref, c'est pour la vie quotidienne de l'élève, c'est une mine d'informations. Ces deux guides-là sont des mines d'informations, ainsi que pour les médiateurs de l'information.
Voilà, c'est à la fois pour les jeunes et pour les adultes accompagnant ces jeunes dans leur formation.
Oui, ce sont des supports indispensables pour l'orientation des jeunes post-3 et post-bac.
Mais écoutez, merci beaucoup Sophie Salvadori, rédactrice en chef de ONICEP Plus. Et on se dit à l'année prochaine, au mois prochain.
Au mois prochain, tout à fait, pour préparer activement la visite sur les salons de l'enseignement supérieur.
Au revoir.
Au revoir.